Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les haters sont-ils plus bêtes que méchants ? Il a décidé de faire une pause. Le journaliste du Monde, Samuel Laurent, renonce pour quelque temps aux réseaux sociaux. Décision prise suite aux insultes et aux menaces reçues après la publication d'une de ses chroniques consacrée au rappeur Nick Conrad et à son clip « Pendez les Blancs ». Le journaliste osait un parallèle avec Georges Brassens et son expérience de la censure. La violence des réactions sur Twitter notamment l'a incité à porter plainte et à prendre un peu de champ. Alors on serait tenté d'écrire qu'il s'agissait de réactions d'une rare violence, mais il n'en est rien. Les messages de haine prolifèrent sur les réseaux sociaux et ni la vigilance des internautes, ni les condamnations en justice, ni la pression mise sur les plateformes ne semblent en mesure de lutter contre ce phénomène que représentent ceux qu'on appelle les haters. Un rapport rendu récemment au Premier ministre préconise notamment de renforcer les sanctions en la matière, mais est-ce la bonne méthode ? Depuis la rentrée, l'émission quotidienne sur TMC propose une chronique qui ridiculise les discours de haine. C'est drôle et cela semble efficace. Alors les haters sont-ils plus bêtes que méchants ? C'est la discussion que nous allons avoir ce soir en compagnie de 4 invités, à commencer par vous, Laetitia Avia, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée La République En Marche de Paris, de la 8e circonscription. Vous êtes une des auteurs de ce rapport que j'évoquais, qui a été remis au Premier ministre et qui vise à renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Deuxième invité, Pablo Mira, bonsoir.
Ça va ?
Ça va, et vous ?
Ouais, ça va pas mal.
Vous êtes humoriste, cofondateur du site satirique Legorafi. Vous menez une émission de débat sur Deezer. Ouais. Vous êtes chroniqueur chez nos amis de France Inter dans Par Jupiter. Ça vient juste de se terminer. Et vous tenez la revue de presse des haters. C'est le jeudi.
C'est ma nouvelle passion. C'est j'essaye de trouver les meilleurs commentaires de haters de la semaine et ça me détruit le cerveau semaine après semaine.
Vous nous raconterez notamment comment vous faites, si c'est compliqué de trouver justement ces meilleurs commentaires. C'est sur TMC dans Quotidien. Troisième invité, Rokhaya Diallo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et réalisatrice. Vous animez notamment une émission sur la chaîne BET qui appartient au groupe MTV. Vous aviez signé un documentaire pour LCP
qui et date France 3.
2014 et France 3 et qui s'intitulait Les réseaux de la haine. Et puis notre quatrième invité, il est au téléphone. Il s'agit d'Olivier Ertscheid. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en sciences de l'information et de la communication. Vous enseignez à l'Université de Nantes et à l'IUT de La Roche-sur-Yon. Vous avez un blog, affordance.info, sur lequel on peut lire notamment un article que vous avez consacré dans la perspective de l'émission de ce soir, où vous dites que vous savez à l'avance que vous aurez parlé de tout sauf de l'essentiel et qu'en plus vous l'aurez mal fait. Donc je renverrai sans doute à la fin de l'émission à votre article pour qu'on puisse lire tout ce que vous n'aurez pas eu le temps de dire. On va donc parler des haters ce soir. Alors comme on essaie toujours de faire un petit peu de pédagogie, il faut commencer par la définition. Vous qui êtes quasiment docteur S haters, désormais Pablo Mira.
Moi ce que je dis c'est tout simplement des internautes qui postent des commentaires haineux sur le net, pas forcément aux réseaux sociaux, ça peut être aussi, il y en a pas mal aussi dans les commentaires sous les articles de presse. Évidemment il y a des sites de qui en cumulent un peu plus, en vrai c'est plutôt le Figaro ou Valeur Actuelle où on va en trouver un peu plus quoi.
Les sites et pas forcément les réseaux sociaux.
Si, après il y a des comptes particuliers où je sais pas pourquoi ça s'est concentré là. Il y a le fil Facebook de 20 minutes. Je sais pas pourquoi il y en a énormément là. Ça s'est structuré comme ça à un moment donné. Mais après, évidemment, les réseaux sociaux avec Twitter par-dessus tout. Là, c'est la mecque de la haine si jamais vous avez envie de vous y frotter.
Rokhaya Diallo, vous êtes régulièrement confronté à ce phénomène des haters?
Oui, depuis très longtemps et de manière vraiment continuelle. Vous avez cité un documentaire que j'ai fait en 2014 suite à un appel au viol qui m'avait été adressé et à la suite duquel j'ai engagé une procédure et donc j'ai gagné ce procès et c'était pas le premier. J'ai gagné un autre procès pour menace de mort à caractère raciste. Récemment, il y a une enseignante qui m'a adressé un appel au viol aussi qui a été rappelé à la loi. Pose dans l'espace public des idées qui peuvent être un petit peu questionnées, en tout cas par des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, et je pense que c'est amplifié par le fait que je sois une femme, parce que ce qu'on remarque aussi sur les réseaux sociaux, c'est que les femmes sont encore plus harcelées, plus ciblées, et beaucoup plus ramenées en fait à leurs conditions féminines, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus recevoir des menaces relatives en fait à des agressions sexuelles, et des propos qui sont prononcés dans l'objectif de nous intimider, de nous faire taire. Donc moi, il suffit d'aller sur ma timeline, c'est fabuleux, j'ai vraiment des haters qui me suivent en continu et qui m'invectivent toute la journée.
Laetitia Avia, vous avez eu la gentillesse tout à l'heure de publier un post sur Twitter pour annoncer votre participation dans l'émission de ce soir. Et il y a un tweeter qui a répondu, il s'appelle Pipo. Et qui dit ceci, alors quel est ce texte, hein, il faut, donc en réponse à votre message, il faudrait poursuivre avant tout ces jeunes qu'on identifie bien sur Twitter et qui frappent les femmes et les blancs à coups de couteau, ces jeunes le plus souvent issus de l'immigration. Est-ce que vous aussi, alors du coup, vous êtes régulièrement confronté à ce genre de message, et est-ce que vous mettriez ce message-là dans la catégorie dont on parle ce soir, celle des haters?
Alors, des messages comme celui-là, j'en reçois bien sûr tous les jours. Et quel que soit l'élément sur lequel je peux communiquer, on aura forcément ensuite un message à caractère raciste, racial, parce qu'on essaie toujours de ramener cela sur ces sujets-là, et c'est d'où l'importance de la mission qu'on a menée les 4 derniers mois. Alors, on est précisément en présence d'un commentaire que nous avons qualifié de contenu gris dans notre rapport. C'est-à-dire qu'il y a des contenus qui sont explicitement haineux, racistes, antisémites, homophobes, et pour lesquels on fait un certain nombre de préconisations. On pourra revenir dessus tout à l'heure. Puis il y en a d'autres qui reposent sur des associations d'idées sur lesquelles on ne va pas pouvoir avoir une action des plateformes par l'utilisation d'algorithmes, et sur lesquelles justement on va avoir besoin de personnes qui vont devoir analyser le message et voir s'il a un caractère raciste. En l'occurrence, ce message-là, moi je considère que oui. Et donc c'est le genre de message qu'on doit pouvoir sanctionner également.
Alors on va aller justement dans un instant sur la façon de répondre à de tels messages. Mais pour poursuivre et pour achever ce premier tour de table et essayer aussi d'évaluer peut-être ce que ça représente. Olivier Hertzschaid, est-ce qu'on peut dire que... Alors je reste toujours avec ce terme de hater. C'est pas impossible que je me fasse un petit peu réprimander par nos auditeurs pour, à cause de l'utilisation de cet anglicisme. Mais ce qu'on peut dire, c'est consubstantiel d'Internet et des réseaux sociaux. Ou bien est-ce que c'est un phénomène qui est relativement récent?
Alors, consubstantiel, en tout cas, l'Internet n'a pas, ou les réseaux sociaux n'ont pas inventé le phénomène des haters. Si vous étiez, si vous avez traîné un petit peu dans quelques cafés quand vous étiez plus jeune, ou à l'heure actuelle d'ailleurs, vous avez certaines discussions autour d'un match de foot, autour d'une personnalité publique qui intervient à la télé, qui ressemble assez fortement à ce qu'on qualifierait aujourd'hui d'un discours de haine sur Internet. Ce qui change, bien sûr, c'est le volume, c'est le nombre, et puis c'est la caisse de résonance effectivement que peuvent atteindre ces discours, dans lesquels, encore une fois, il y a une gradation, hein. C'est vrai que derrière le terme de haters, on recouvre, et Laetitia Avia vient de le rappeler, des discours qui vont de l'appel au meurtre, au viol, des menaces physiques, jusqu'à des phénomènes un petit peu plus classiques de trolls ou de entre guillemets de simples agressions verbales, ou de gens qui vont jouer comme ça la surenchère et la provocation. Et à chaque fois, la qualification de hater dépend bien sûr de la personnalité à qui on s'adresse aussi. C'est-à-dire qu'un compte avec une très très forte exposition, une personnalité publique avec 10, 100 ou 200 000 followers s'expose naturellement plus, malheureusement, dans ces environnements que sont les plateformes, à des discours de haine qu'un utilisateur lambda de Twitter qui va interagir de temps en temps.
Alors, Rokhaya Diallo, le documentaire que vous aviez consacré à ce phénomène en 2014 intitulé « Les réseaux de la haine », est-ce que ça veut dire que ce sont forcément des actions concertées qui sont derrière ces messages de haine, ou bien est-ce que on arrive à savoir aujourd'hui si ce sont plutôt des individus qui se rassemblent parce que l'occasion faisant le larron, voilà, ils se retrouvent à essayer peut-être de surenchérir dans les messages, ou bien est-ce qu'il y a vraiment des organisations derrière qui peuvent susciter comme ça de tels messages?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure, des personnes qui de manière individuelle vont s'en prendre, suivre des personnes et puis régulièrement commenter de manière négative leurs actions. Et après, il y a des actions qui sont véritablement concertées et pensées. Je pense notamment à la Fachosphère qui va sur certains forums s'organiser pour commenter des articles et orienter en fait la tonalité des commentaires vers une discussion qui va forcément mobiliser des clichés raciaux, sexistes, etc. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux, dès lors qu'un certain groupe s'en prend à moi, je vois toute la galaxie, en fait toute la sphère qui est autour de ce groupe-là répéter les commentaires négatifs jusqu'à épuisement. En fait, l'idée, c'est vraiment de décourager la prise de parole en organisant en fait des raids. Ce sont des raids numériques. Alors effectivement, j'ai appelé mon documentaire Les réseaux de la haine, mais je tiens à dire que depuis ce documentaire, donc qui date maintenant d'il y a presque 5 ans, je suis restée sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'il n'y a pas que de la haine sur les réseaux sociaux. C'est important de le dire et de dire qu'on peut en faire un usage qui est un usage utile, qui peut être aussi pourvoyeur
de. Vous avez vu une évolution ou pas depuis 5 ans? sur le phénomène de haine sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça s'est amplifié?
Ça s'est amplifié parce que tout simplement, il y a plus de monde à l'époque. Ouais. Il y avait, je pense, moins de personnes qui étaient présentes sur Twitter. Et ça s'est beaucoup, beaucoup amplifié parce que moi, j'ai aussi plus de personnes qui me suivent. Je pense aussi qu'il faut, comme l'a dit la personne qui est au téléphone, c'est important de dire que les personnes qui ont une forte visibilité concentrent une attention qui est beaucoup plus importante que la moyenne et donc peuvent se retrouver avec des insultes importantes. Mais dans le documentaire, il y avait une personne qui était relativement peu connue, qui était une féministe, qui est très impliquée dans les jeux vidéo et qui, elle, avait dénoncé le sexisme des jeux vidéo et s'est retrouvée, en fait, harcelée de manière quotidienne et menacée. Et là, on voyait bien qu'il y avait une organisation qui était complètement cohérente et pensée.
Laetitia Alia, vous êtes d'accord avec cette idée d'une amplification du phénomène de la haine sur les réseaux sociaux et sur Internet ?
Oui, bien sûr, et cette amplification, elle va avec l'amplification de l'utilisation des réseaux sociaux. La difficulté aujourd'hui, c'est que on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, mais il y a dans l'imaginaire collectif cette idée selon laquelle ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Alors que si vous pensez au cours de votre journée, vous verrez que vous avez peut-être eu plus d'interactions sur les réseaux sociaux qu'avec des personnes dans la rue, autour d'un café. Et c'est ce mythe qu'il faut briser et se dire que ce qu'on tolère pas finalement dans nos interactions qualifié de réel, ne doit pas être toléré sur Internet.
Sauf que moi, je me suis posé la question en préparant l'émission, en disant, alors j'ai regardé quand même un certain nombre justement de messages, dont ceux dont vous faites l'écho, Pablo Mira, non pas pour les promouvoir, hein, mais pour vous en moquer. Je me suis dit, mais qui dans mon entourage est-ce que je connais qui serait capable d'écrire ce genre de message? A priori, je ne connais personne. Peut-être que je connais mal les personnes.
Après, il y a un truc où les gens, je pense vraiment fondamentalement, se lâchent quand ils sont tout seuls dans une pièce ou face à leur portable et qu'il n'y a personne qui regarde. Et je pense que ce n'est pas les mêmes personnes, vraiment. Il y a un truc sur, on parlait d'Internet, de l'anonymat qui donne un genre de permission sociale de dire des choses qu'on ne dirait pas dans une interaction de la vie de tous les jours, une interaction physique. Les gens s'autorisent des choses qui n'existent pas dans... J'allais dire dans la vraie vie.
Mais alors, ce que dit Pablo Mira va un petit peu à l'encontre de ce que vous dites, Laetitia Alia. C'est-à-dire qu'il y a une distinction entre l'individu qu'on peut être sur les réseaux sociaux et puis l'individu qu'on va être dans, appelons ça la vraie vie, ce qui est un peu...
Voilà, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est la même personne et c'est la même personne qui est responsable ensuite juridiquement.
Oui, mais il y a l'anonymat. C'est-à-dire que eux se disent inconsciemment. Déjà, je pense qu'ils doivent se dire deux choses. Ils doivent se dire, un, on va pas me retrouver et si on me retrouve, il y aura pas de sanctions juridiques. Je pense que c'est ce double raisonnement, mais qui est presque, je pense, inconscient. Qui fait qu'ils se permettent de dire des choses qu'ils ne diraient pas dans leur boulot.
Et ils vont se dire, troisième chose, qu'ils s'attaquent généralement à des personnes publiques.
Ah, donc c'est
et
légitime,
que c'est légitime. Lorsqu'on est une personnalité publique, c'est aussi ce qui va avec, c'est d'avoir un certain nombre de contradictions. Parce qu'ils considèrent que leurs propos haineux sont juste des propos de contradictions, ce qui n'est pas le cas en réalité.
Mais c'est pour ça que je trouve que l'analogie avec le café est à la fois intéressante et peut-être pas tout à fait exacte, parce que ce qu'on s'autoriserait à dire, y compris dans un café, le niveau d'autorisation en fait en termes de haine est quand même plus bas que ce qu'on dit sur Internet parce qu'on ne se permettrait pas, y compris dans un café, dans un bar avec des personnes, de formuler des injures de la même ampleur.
Alors qu'en pensez-vous, Olivier Hertzel? J'ai entendu que vous vouliez réagir à ce qui se disait. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous allez nous parler de deux effets? Je ne sais pas si nos autres invités les connaissent, l'effet petit pois et l'effet miroir.
Oui, ça c'est encore autre chose, mais sur la
question... Ah bah non, c'est impoli quand même, je trouve. Enfin, oui, je vous laisse, allez-y, je vous laisse réagir.
Sur la question de l'anonymat, je voulais juste rappeler que contrairement à effectivement ce qui est souvent une idée reçue, il n'y a pas nécessairement de causalité directe entre le fait d'être anonyme et la multiplication des discours de haine. Au tout début d'Internet, quand tout le monde était anonyme et utilisait des pseudos, il n'y avait pas beaucoup plus de discours de haine qu'il n'y en a aujourd'hui. Et aujourd'hui, une grande partie des gens qui assument et qui profèrent des discours de haine, y compris excessivement violents, sont des gens qui n'hésitent pas à le faire sous leur vraie identité ou sous une identité qui est à peine masquée et qui est très facilement décelable. Donc cette idée que plus on est anonyme et plus on serait entraîné à proférer des discours de haine, c'est une idée qui, statistiquement, sociologiquement et historiquement, est fausse.
Ça c'est sur la question de l'anonymat, sur la question de l'ampleur du phénomène.
Alors sur la question de l'ampleur du phénomène, on est effectivement ce qui change par rapport effectivement aux conversations de bistrot, c'est le contexte attentionnel, c'est-à-dire quand on est en train d'interagir sur des réseaux sociaux, on a tous intégré le fait que et ça a été mesuré par tout un tas de chercheurs, que les sentiments qui se propagent le mieux, ceux qui nous font le plus réagir, ce sont des sentiments exacerbés qui provoquent chez nous de la colère, de l'indignation. Donc comme on a aussi conscience en même temps que ce qu'on va dire au travers de son fil Twitter, ça va être noyé dans la masse, on sait que plus on va surréagir et plus on va en gros s'énerver et être agressif, et plus on a de chances que notre discours remonte et émerge au travers de, du filtre social qu'est Twitter, Facebook ou que sont les algorithmes qu'il y a derrière. Donc on est.
C'est ça l'effet petit pois.
Pardon.
Est-ce que c'est ça l'effet petit pois? Puisque comme j'ai cité cet effet-là, juste pour qu'on comprenne de quoi je parlais.
L'effet petit pois, c'était autre chose, c'était le fait qu'effectivement, on focalise souvent notre attention en tant que simple citoyen ou les médias souvent sur des phénomènes dont la réalité statistique est en réalité très faible. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la totalité des interactions qui se produisent chaque minute, chaque jour ou chaque mois sur Twitter ou sur Facebook, les discours de haine, ça ne veut pas dire qu'ils sont inexistants, mais ils représentent une infime minorité de ce qui se dit et de ce qui s'échange au travers de ces réseaux sociaux.
Voilà, c'est la référence au conte bien connu de la princesse au petit pois. Pablo Mira, je trouve que... Pablo Mira, je trouve que ce qui ressort bien justement dans votre chronique, notamment sur cette espèce d'exagération progressive, on va dire, dans les messages, c'est-à-dire on a presque l'impression que les internautes, les haters, se livrent à une forme de compétition où il faut absolument se surpasser. Alors, enfin, je ne sais pas en fait si c'est un phénomène d'écriture.
C'est plus l'art du trolling, je pense, c'est une autre dynamique à part entière. Non, pardon, j'aimerais juste revenir sur un point. C'était sur le fait que la colère et l'indignation se répandaient plus sur le net, ça, on s'en est rendu compte. Et moi, je voulais vraiment poser la question de la responsabilité des médias, parce qu'en fait, on se rend compte que les haters, ils se greffent sur les débats ou les polémiques que les médias, les gros médias balancent dans la journée. Il suffit de regarder ce qu'on appelle les top trends ou les comment on appelle ça sur Twitter là, les hashtags, voilà, qui sont le plus débattus aujourd'hui. Ça va être Gérard Collomb, il y a quelques jours c'était Macron qui était à Saint-Martin, et en fait ils se grèvent sur ces débats là qui suscitent énormément d'indignation et de colère, parce que c'est des sujets où il y a de la polémique. Et moi je me pose vraiment cette question là de la responsabilité des gens qui balancent un sujet comme ça et qui suscitent énormément de réactions, dans lesquelles il y a des réactions mesurées, polies, où il y a du débat, et puis il y a des réactions de haine, quoi.
Laetitia, viens.
Je pense que dans ce cas de figure, les médias sont dans leur fonction d'information. Et ceux qui ont une responsabilité entière, ce sont ceux qui peuvent finalement nettoyer leur contenu. Ce sont les plateformes. Ouais. C'est eux qui sont complètement responsables de ce qui se passe sur leur plateforme. Alors aujourd'hui, on a deux régimes, qui sont le régime d'éditeur et d'hébergeurs. Et donc, quand on a des plateformes telles que Facebook, Twitter, on va nous dire, mais attendez, nous, on est juste hébergeurs, on n'a pas de capacité à modifier et à contrôler le contenu sur nos plateformes.
Là, c'est Facebook qui dit, on est hébergeurs.
Voilà, on est hébergeurs. Ce qu'on propose dans notre rapport, c'est un troisième statut, qui est celui d'accélérateur de contenu. C'est-à-dire qu'on va considérer que certaines plateformes ont cette capacité d'amplification d'un message. Et dans ce cas-là, elles auront une responsabilité qui sera exacerbée. Tout à l'heure, on parlait de l'anonymat. L'anonymat n'existe pas, en réalité, sur les réseaux sociaux. Et toutes ces plateformes ont la capacité d'identifier les utilisateurs. En revanche, il faut qu'elles aient une sanction plus importante, une épée de Damoclès, qui les oblige à révéler l'identité de ceux qui propagent ces contenus haineux.
L'anonymat n'existe pas sur Internet, mais ça peut être quand même parfois un peu compliqué, justement, de retrouver l'identité de la personne qui se livre à ce genre de message de haine. Vous le disiez au début de l'émission, Rokhaya Diallo, vous, justement, donc vous avez été agressé sur un réseau social, vous avez porté plainte, l'enquête a permis justement de retrouver la personne. Est-ce que ça a été compliqué? Et question subsidiaire, comment s'est passée la confrontation avec votre agresseur? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui ressemblait à ce que vous aviez imaginé?
Alors, pas du tout. Je vais laisser le suspense pour répondre à votre première question. Sur l'anonymat, moi, je pense qu'il faut quand même rappeler que c'est une possibilité qui est importante. On vit dans un pays démocratique où, effectivement, on a un gouvernement qui respecte a priori les droits des citoyens. L'anonymat peut être extrêmement important pour des personnes qui vivent dans des régimes qui leur permettent pas forcément de s'exprimer de manière visible, ou des personnes dont le devoir de réserve, en fait, ne permet pas de tout dire. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder en tête que l'anonymat peut être une forme de protection pour des gens qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer pleinement. Sur la question de ce qui s'est passé pour ce qui me concerne, donc j'ai fait par la biais de mon avocat une demande à Twitter de révéler l'identité de la personne qui a refusé. Mais moi, je suis plus réservée que Laetitia Avia par rapport au fait que les plateformes puissent avoir la responsabilité de dévoiler les identités des gens, parce que je pense que ça reste des entreprises privées. Et pour moi, il est important que ce soit des institutions de la République, en fait, qui donnent l'ordre de révéler l'identité des gens et de mettre en place des sanctions. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons porté plainte et que c'est la police qui a demandé à Twitter de révéler l'identité de la personne qui m'avait attaqué, et qu'ensuite on est allé en justice.
Donc, j'ai rencontré.
C'est le schéma légal voilà, classique, c'est ce que j'indiquais. C'est que l'internet n'existe pas, mais sur réquisition du procureur.
Absolument,
bien sûr.
Que ce soit pas directement des entreprises privées qui décident d'une part de supprimer des contenus, donc d'exercer une forme de censure qui ne relève pas en fait d'une autorité de la République, et puis effectivement de le faire sur acquisition du procureur. Donc j'ai rencontré en fait un jeune homme de 23 ans qui travaillait à la RATP et qui était absolument choqué de ce qui lui arrivait, parce qu'en fait il avait balancé un appel au viol un soir, je crois que c'était durant un week-end, et il n'imaginait pas qu'il allait être confronté. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que la différence qu'il peut y avoir entre des propos qu'on écrit et des propos qu'on formule, c'est que ça ne résonne pas de la même manière. Quand un juge vous lit « il faut violer cette conne de Rokhaya » et que vous êtes responsable de ce propos, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez écrire sans que la voix ne donne un écho au propos. Et moi, j'ai vu quelqu'un d'absolument désolé qui n'imaginait pas en fait qu'il allait se retrouver confronté à une peine possible. Il a été sanctionné d'une amende et d'une peine de dommage-intérêt. Donc, ce que je trouvais en fait regrettable, c'est que j'avais le sentiment que les magistrats, en tout cas à l'époque, n'étaient pas très très bien formés sur le fonctionnement des réseaux sociaux. Et je crois qu'il y a vraiment une lacune de ce point de vue-là par rapport à leur capacité à prendre en charge le fonctionnement de plateformes en fait qui technologiquement fonctionnent d'une manière qu'ils ne comprennent pas nécessairement.
Et par rapport au fonctionnement psychologique alors de ces haters, comment est-ce que vous répondriez tous les quatre, Rokhaya Diallo, Pablo Mira, Laetitia Avia et Olivier Herschel, à la question qu'on pose ce soir, c'est-à-dire est-ce que les haters sont plus bêtes que méchants? Quand on regarde votre chronique sur TMC dans l'émission Quotidien, Pablo Mira,
c'est vrai que c'est à dire qu'ils sont plus bêtes.
A priori, oui, il y a quand même des messages qui sont absolument ahurissants.
Je vous dis un peu comment je bosse pour trouver 6 commentaires qui vont essayer de faire rire à la lecture juste parce qu'ils sont ridicules et débiles. On va en lire, avec les gens avec qui je bosse, on va en lire 2500, parfois 3000 sur des grosses journées. Moi, ce que je vois, ce que je constate sur les endroits, réseaux sociaux, sites d'actu, etc., que je parcours, c'est qu'ils sont a priori plus haineux, enfin plus méchant que bête. Et c'est très dur de trouver justement des choses qui feront rire et qui juste vous minent pas le moral pour 48 heures. Donc si c'est pour répondre à la question, je pense que c'est plutôt ça. Ils sont plus méchants que bêtes.
Mais pour quelle raison est-ce que vous avez choisi de traiter ceux-là plutôt que d'autres? Est-ce que c'était parce que vous êtes dans une émission de divertissement, donc il faut plutôt le traiter par l'humour? Ou bien est-ce qu'il y avait aussi l'idée d'être utile?
Non, moi ce qui m'intéressait, c'était que la lecture de ces messages soit drôle en soi, qu'on atteigne un degré de méchanceté qui devienne quasiment idiote et que ça fasse rire rien que par le sonore. Un peu comme quand vous faites on voit un micro-trottoir comique et tout ça, et que la personne dit une énormité et que ça fait rire rien qu'à l'écouter. Après, moi, j'essaie de faire des vannes avant et après pour essayer de faire redescendre tout ça. Mais l'idée, c'est que tout soit drôle.
Voilà, moi, j'ai découvert votre chronique avec celle que vous aviez consacrée aux réactions après la publication d'un rapport qui préconisait notamment l'enseignement de la langue arabe à l'école.
Ah oui, ça, c'était pas mal. Et sur jubileo.com, il y avait de la matière, je me souviens.
Il y a notamment une Denise qui dit « Apprenons d'abord le français et l'anglais, on s'en fout de l'arabe, mais on sent S-E-N-S ». Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même extrêmement drôle quand on tombe sur ce genre de perles.
Ouais, les situations ironiques un petit peu comme ça, mais en vrai, elles sont très dures à trouver, hein. On va passer 7 heures pour en trouver 6, quoi.
Dans vos recommandations, Laetitia Avia, il y en a 20. Il y a la 19 qui dit ceci: il faut diffuser via les réseaux sociaux des campagnes de contre-discours. Est-ce que la dérision, ça peut faire partie du contre-discours?
Exactement. On a 3 volets dans le rapport. Il y a le côté responsabilisation des plateformes, suppression des contenus en 24 heures. Il y a le côté sanction des auteurs. Très important d'avoir une nouvelle procédure pénale. Et puis, il y a une mobilisation également de la société civile. Et là, on s'est inspiré beaucoup de ce qui peut se faire, notamment en Grande-Bretagne. On a rencontré une association qui s'appelle Stop Hate UK. Et en fait, on a des personnes qui, pendant 6 mois, pas plus, parce qu'en effet, ça peut rendre dépressif, s'occupent sur les réseaux sociaux de faire du contre-discours et donc de répondre à tous ces messages de haters et de déconstruire finalement leurs messages. Et cela porte ses fruits. Donc, c'est quelque chose qu'on propose aussi d'intégrer en France. France, que ce soit aussi dans le cadre du prochain SNU, des services civiques, dans la vie associative, et également de multiplier des messages de sensibilisation. Nous, on a fait une campagne publicitaire également, enfin sur les réseaux sociaux, lorsqu'on a lancé notre mission, et on a vu que ça avait interpellé beaucoup de personnes.
Allez, vous préconisez, recommandation numéro 17, de créer un observatoire de la cyber-haine. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, à la fin de l'émission, vous allez recruter Pablo Mira pour
participer à diriger l'observatoire. Et gratuitement.
Je pense qu'il doit d'abord s'en entretenir avec le Premier ministre.
Sur la question du discours à opposer, Olivier Hertzsched, est-ce qu'on peut juger de l'efficacité, alors justement, d'une riposte systématique à ces messages de haine versus le fait de, justement, peut-être de ne pas répondre et d'ignorer tous ces messages pour ne pas susciter un engouement?
Oui, alors sur Internet, il y a une règle qui est presque aussi vieille que le média, qui dit « don't feed the troll », c'est-à-dire « c'est pas en gros les gens qui essayent de troller une discussion, y compris d'ailleurs un certain nombre de haters, parce que plus vous allez effectivement leur répondre et plus on va être dans la surenchère. Mais sur la question des contre-discours, qui est une approche intéressante, on a notamment mis ça en place dans plusieurs pays sur YouTube pour contrer effectivement le discours djihadiste. Ce qui est compliqué, c'est que c'est très très difficile de valoriser et d'exposer des discours positifs, du fait même de la structure de ces plateformes. Et pour une raison qui est très simple, c'est que les discours qui sont valorisés sont les discours militants, qui sont systématiquement des discours, par exemple, racistes, antisémites, etc. Quelqu'un qui n'est pas raciste et quelqu'un qui n'est pas militant antiraciste, il va pas passer sa journée à vous expliquer pourquoi il est non raciste. Quelqu'un qui est raciste, en revanche, il va en permanence essayer de faire communauté, de trouver des gens qui pensent comme lui. Et donc ça, c'est un phénomène qu'un collègue Dominique Cardon décrit comme la tyrannie des agissants. Il y a très peu de gens qui arrivent à mobiliser autour d'eux sur un discours souvent effectivement haineux, raciste, antisémite, sexiste, des communautés très fortes, pas simplement parce que ces communautés sont les plus importantes, mais parce que les communautés de non-racistes, de non-antisémites et de non-sexistes ne passent pas leur journée à dire qu'elles ne sont ni racistes, ni antisémites, ni sexistes.
Votre approche à vous, Rokhaya Diallo, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous y êtes, vous tweetez beaucoup. Est-ce que quand vous y êtes attaqué, l'idée c'est de répondre systématiquement, ou bien est-ce que c'est une réflexion qui a peut-être évolué au fil des années?
Alors ça dépend, quand c'est de mauvaise foi, je ne réponds pas évidemment, parce que ça ne sert à rien, les personnes ne sont pas du tout disposées à engager un débat, elles essaient simplement de vous miner en vous opposant des arguments agressifs. Mais ce que je trouve intéressant en fait en termes de réponse, alors c'est pas la réponse unique, hein, puisque moi j'ai pu avoir l'occasion de saisir la justice, mais c'est de détourner en fait de manière humoristique les messages qui peuvent vous être opposés. Je me souviens que récemment j'avais été interpellée de manière extrêmement agressive par un collectif en fait qui me demandait pourquoi je n'avais pas réagi à des propos homophobes prononcés par une autre personne en fait, une personne noire, enfin je sais plus, c'était vraiment genre comme si j'étais responsable en fait des propos de tous les noirs et de tous les musulmans de France. Et ce qui était marrant en fait, c'est que des gens ont créé le hashtag « Où étiez-vous, Rokhaya ?» pour me demander où j'étais lors de la mort de Jeanne d'Arc, où étais-je lorsque voilà lors de la fin, tout un tas de
c'est
situations
drôle de remarquer, si
c'est
vous
super drôle
par rapport à Jeanne d'Arc en tout
c'est
cas.
C'est hyper drôle parce que du coup ce hashtag en fait a donné lieu à plein de parodies du tweet initial et a complètement ridiculisé en fait les personnes qui m'interpellaient de manière extrêmement agressive et haineuse, et je trouve, et il continue en fait comme régulièrement la semaine dernière j'étais interpellée sur les propos de Nick Conrad parce que apparemment tous les noirs de France qui s'expriment de manière agressive doivent me demander validation avant de parler, donc le hashtag où étiez-vous, Rokhaya, a ressurgi, et je trouve ça hilarant. J'invite vraiment les gens à regarder parce que beaucoup d'imagination, c'était vraiment extrêmement drôle. Donc je trouve que ça peut être une stratégie pour, d'une certaine manière, tourner en dérision une interpellation absurde.
Mais j'ai vécu exactement la même situation sur ce clip, d'autant plus que moi j'étais à l'étranger avec un décalage horaire de 6 heures, donc il m'a fallu 6 heures pour répondre et condamner publiquement ce clip. Et ensuite on m'a dit, mais il était temps, vous avez réfléchi si longtemps pour voir le caractère raciste de ce tweet. Et c'est vrai que on est finalement si peu identifié comme étant des militants antiracistes, alors qu'en réalité, la grande majorité de la société est contre ces propos, qu'on est identifié comme devant, pour chaque élément, chaque sujet, dénoncé. Alors que ce n'est pas notre responsabilité à nous, c'est la responsabilité des plateformes, c'est la responsabilité également des victimes de dénoncer, de déposer plainte et d'aller au bout de leur action.
Est-ce que votre approche dans le rapport que vous avez co-écrit Laetitia Avia et qui devrait faire l'objet d'une loi dans les prochains mois, est-ce que votre approche c'est de dire il ne faut rien laisser passer, il faut être absolument intransigeant?
Alors, on sait bien qu'on ne pourra pas, et l'idée c'est pas d'avoir une censure complète d'Internet, mais l'objet c'est de ramener aussi un comportement civique au sein d'Internet. Donc c'est finalement le gros, voilà, tous les propos qui sont explicitement racistes, antisémites, homophobes, tout ce qui n'est vraiment pas toléré dans la vie réelle et par la loi de 81, qui ensuite doit être sanctionné réellement sur Internet.
Mais
ensuite,
ça s'arrête justement à ce qui est de l'ordre du légal et de l'illégal, ou bien il y a aussi des messages qui peuvent être ambigus, qui peuvent être haineux, mais qui ne relèvent pas de la loi.
Non, alors si le message est juste haineux, mais qu'il n'a pas de caractère, qu'il n'est pas lié à l'origine, à l'orientation sexuelle, à un facteur discriminant, raciste ou religieux, bien dans ce cas-là, ça ne relève pas de notre rapport. On distingue tout de même les choses et l'idée, ce n'est pas de lutter contre tout propos injurieux. Après, il y a d'autres phénomènes. Tout à l'heure, on parlait par exemple des raids numériques. Si on est sur de l'insulte coordonnée via un raid numérique, là, c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans la loi Chiappa, qui touche à la fois le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Et là, on a des dispositions maintenant pour pouvoir agir contre toutes les personnes qui concertent pour aller attaquer et humilier une même personne.
Pablo Mira, est-ce qu'il y a des messages que vous interdisez de citer à l'antenne parce qu'ils vous paraissent...
C'est la grande majorité. Ouais. C'est la très très grande majorité, ouais.
Mais c'est quoi justement le critère? C'est-à-dire vous dites, ça je ne peux pas parce que ça relève
juste
de
la haine gratuite et qui fait partie d'un torrent de messages qui se ressemblent tous, parce que ça aussi c'est un autre truc, c'est que c'est les mêmes éléments de discours. Vous prenez les 5-6 derniers grands débats, alors évidemment avec énormément de racisme, l'Aquarius... qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Saint-Martin, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu l'arabe à l'école, enfin, et c'est toujours le même discours qui se... Mais c'est dingue, c'est-à-dire que c'est pas coordonné, mais les phrases se ressemblent. Vous prenez un article avec 1000 commentaires, vous allez avoir quasiment les mêmes phrases qui... On a l'impression que c'est du copier-coller. Après, il y a les fautes d'orthographe qui changent un peu, mais...
Laetitia Avia parlait de comportement civique. Est-ce que vous, par exemple, quand vous voyez des messages particulièrement violents, est-ce que vous les signalez? Je sais pas si vous travaillez tout seul, non, vous êtes une petite équipe.
Non, moi, ce que je fais, je les mets à l'antenne ou sur scène, parce que c'est aussi quelque chose que je fais dans mon spectacle. Et c'est la seule chose que je fais, c'est essayer d'en rire, parce que ça reste mon métier. J'ai trop de boulot, hein, déjà. Je peux pas non plus. Pas dénoncer les gens.
C'est pénible aujourd'hui de signaler. C'est ça la difficulté. C'est que ça change.
En plus, il y a un processus.
Il y a une autorité pharos. On a essayé de faire des signalements. C'est très long. Sur Twitter, on nous propose plutôt de bloquer les personnes plutôt que de signaler. C'est pour ça que dans le rapport, nous on propose aussi une procédure unique pour toutes les plateformes,
avec un bouton standard,
unique, pour tout le monde. Et puis nous qui avons rencontré toutes les plateformes, et elles nous ont toutes dit la même chose, c'est qu'elles voulaient lutter contre la haine, donc on a envie de leur dire, c'est maintenant le moment de mettre des actes face aux belles paroles, et donc d'accepter d'avoir ce bouton unique.
L'idée d'un comportement civique et de favoriser un comportement civique sur Internet et sur les réseaux sociaux, ça vous inspire quoi, Olivier Hertzschaed?
Plein de choses, mais pour être court, d'abord il y a un effet qui est un effet un petit peu habitacle sur Internet, c'est-à-dire qu'on a effectivement l'impression d'être à l'abri, un petit peu comme quand on est au volant de sa voiture, si on a une voiture, et où tous les conducteurs qui nous écoutent ont pu mesurer que de temps en temps ils avaient un comportement dans leur voiture qu'ils n'auraient pas s'ils étaient en dehors de leur véhicule et s'ils parlaient directement aux gens. Sur Internet, cet effet habitat, il est très présent. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on ne voit pas les gens à qui on s'adresse, comme on ne les a pas en face, ça a été rappelé tout à l'heure, ça modifie la situation de communication. Et dans des situations de communication modifiées, ben, on est souvent effectivement tenté de dépasser ou d'insulter ou d'avoir un discours qu'on n'aurait pas dans un cadre naturel. Mais moi, ce qui me semble important, surtout à l'échelle des plateformes, c'est de cibler le modèle économique de ces plateformes. Et d'ailleurs, c'est noté dans le rapport qui vient d'être remis. Si ces discours de haine sont très présents sur les plateformes dont on parle, c'est parce qu'il y a une prime à ces discours-là. C'est-à-dire que ce sont les discours qui génèrent le plus d'interactions,
Et le modèle économique des plateformes repose sur ces interactions. Donc si on attaque le modèle économique, à ce moment-là, on arrivera à lutter efficacement contre ces discours de haine et contre la prime qui leur est donnée. Et si on arrive à décentraliser aussi ces énormes architectures techniques. Il y a juste une petite métaphore que j'aime bien, moi, et quand j'en parle avec mes étudiants, c'est l'idée de quand on est dans ces plateformes, on est dans des immeubles de 2 milliards 800 d'habitants quand on est sur Facebook. Et en permanence, on voit ce que font les autres. Ça crée des situations de promiscuité qui ne peuvent que favoriser effectivement l'émergence de discours agressifs, haineux, parce qu'on ne supporte pas en permanence d'être au milieu de cette masse qui n'arrête pas de parler et de nous ennuyer de temps en temps.
Donc faut couper Internet.
Il faut pas couper Internet, il faut répartir Internet différemment, il faut retrouver des moyens de décentraliser les architectures d'Internet.
Voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir parmi ses invités un animateur de débat, ce qui permet aussi de faire des relances tout à fait judicieuses.
Je vous envoie la facture après.
Rokhaya Diallo, ça fait plusieurs années que vous êtes confronté à ces messages qui peuvent être haineux sur Internet et sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez le sentiment que les plateformes sont un peu plus attentives aujourd'hui à cette problématique qu'elles ne l'étaient lorsque vous avez notamment réalisé votre documentaire ?
Pas du tout. Hein. Je ne sens pas de différence. À l'époque, effectivement, j'étais en plus allée voir l'unité Pharos, en fait, qui est composée de gendarmes et de policiers qui sont en charge de prendre en charge les plaintes qu'on leur fait parvenir. Mais il y avait une dizaine de personnes. Donc, on se doute bien que les moyens humains qui étaient alloués à cette mission étaient absolument insuffisants. D'autant plus qu'il
y a des moyens de signalement, par exemple, sur Facebook ou sur
Twitter.
Oui, mais
même sur Pharos. Moi, j'ai signalé plein de choses sur Pharos. J'ai juste des numéros de plainte, en fait. Je n'ai jamais de suite. Je pense que je pourrais faire un bouquin avec les numéros de plainte que j'ai fait sur Pharos, mais je n'ai jamais eu de suite. Donc, je pense qu'ils ne sont pas capables, en fait, de répondre au nombre de signalements. Et puis après, l'autre question, c'est une question philosophique, c'est-à-dire que Twitter, Facebook sont des entreprises américaines et aux États-Unis, la liberté d'expression est protégée par la Constitution. Et donc, l'idée, là-bas, c'est de laisser tous les discours s'exprimer et, d'une certaine manière, se confronter et s'annuler par la démocratie. Donc, il y a une réticence philosophique de la part de ces entreprises à intervenir parce que ce n'est pas dans leur ADN. Et je pense que c'est important aussi de rappeler qu'on n'est pas dans la même dynamique en France. En France, le nombre de signalements est extrêmement important. C'est le pays où on signale le plus de contenu. Donc ça veut dire aussi qu'on a une manière d'aborder la haine par la censure davantage que par le contre-discours.
Il y a un défaut de modération de la part de ces plateformes aujourd'hui, Laetitia Avia, et c'est par la sanction, par la menace de la sanction que ça peut changer, vous pensez ?
Je pense, oui, et notamment à l'échelle européenne, puisqu'on a besoin de ne pas rester que sur un champ français pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Il y a un code de bonne conduite européen auquel la plupart des plateformes ont souscrit aujourd'hui et qui a permis, par exemple, je pense que pour Twitter, on est passé de 20% à 40% des contenus qui ont été supprimés sur les deux dernières années, mais c'est pas suffisant. Et en Allemagne, on est allé beaucoup plus loin, puisque maintenant il y a des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 50 millions d'euros pour les plateformes qui ne répondent pas, qui ne respectent pas leurs obligations. Je pense qu'il faut partir de la soft law et aller sur du droit dur, avoir une vraie épée de Damoclès pour que les plateformes aillent jusqu'au bout de leurs bonnes intentions.
Voilà, parce qu'elles font quand même des choses. Il y a notamment des algorithmes qui permettent de relever des propos qui pourraient tomber sous le coup de la loi. Mais alors, avant d'entrer dans le studio, vous m'expliquiez tout à l'heure, Pablo Mira, que les haters ont aussi des stratégies, c'est-à-dire qu'ils font des fautes d'orthographe exprès pour qu'on ne repère pas leurs mots.
Ah oui, ça c'était plutôt les haters issus de la fachosphère. Alors, pas mal sur Yahoo.fr ou un peu Twitter. C'est-à-dire, par exemple, que le mot « con », ils vont l'écrire « K-H-O-N ». Le mot « merde », ça va être « M-A-I-R-D-E » pour les meilleurs d'entre eux.
Donc, on pense qu'ils sont bêtes, mais en fait, ils sont supérieurs intelligents.
Oui, mais moi, j'ai mis deux semaines à comprendre. Et puis, finalement, après, il faut s'approprier un langage pour essayer de les retrouver. Hein.
Histoire qu'on soit bien sûr que vous serez frustré à la fin de l'émission, Olivier Hertscheid, est-ce qu'en 30 secondes, vous pouvez nous exposer la problématique des algorithmes? En tout cas, est-ce que les algorithmes peuvent être une aide pour lutter contre la haine sur les réseaux sociaux?
Alors, je vais être vraiment frustré, mais ça peut effectivement... C'est indispensable à l'échelle du volume d'informations qui circulent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de modération humaine qui soit capable de traiter la totalité des discours et de les modérer. Mais la croyance vers un tout algorithmique est une erreur fondamentale. C'est-à-dire que Pablo Mira vient de l'expliquer, on peut toujours, et heureusement, j'ai envie de dire, contourner un réglage algorithmique. Par contre, il y a un vrai problème en termes de statut et de paiement des modérateurs humains. Facebook a annoncé qu'il allait recruter de plus en plus de modérateurs. Il faudrait multiplier par 10, par 100 ou par 1000. Il faudrait arrêter de les faire bosser aux Philippines et de les payer avec un salaire qui est totalement indécent. Et puis il faut aussi s'intéresser aux conditions de travail de ces gens-là.
Voilà, ça fait beaucoup de choses et c'est beaucoup de choses
que vous abordez aussi
sur votre dernier article sur votre blog affordance.info. Merci beaucoup Olivier Erchain, merci Laetitia Avia, Pablo Mira, Rokaya Diallo, les références bibliographiques, les liens vers vos différentes émissions, vos différentes fonctions, c'est sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe, Guillaume Laguigné, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Ulster. Émission réalisée par Alexandre Fougeron avec à la prise de son Bruno Gagnère-Fontanille.